Allez bien, je n'ai pas salué tout le monde individuellement, mais j'aimerais vraiment vous dire que je suis très heureux de venir ici. Ne m'agresse pas avec le micro, mon cher Clément. Je m'appelle Guillaume, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai 33, j'aurai 34 ans le 19 septembre. Ça, je vous le dis pendant vos tablettes. Dans la vie, je suis marié à Christine, qui est aujourd'hui là, qui n'est pas avec moi aujourd'hui. Je suis pasteur, je suis missionnaire depuis 2 ans, pasteur un peu plus récemment, même si ça a glissé subtilement. Je m'occupe d'une église qui se trouve à Montreuil-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Et j'ai une passion pour l'évangélisation des musulmans, pour la mission mondiale et pour la prédication textuelle de la parole de Dieu. Et c'est aussi dans ce cadre-là que je vais venir les 4 prochains mois ici pour donner un coup de main à l'église ici. L'église où il y a pas mal de leaders, hein. Vous avez déjà peut-être rencontré Clément, vous connaissez certainement Francis qui est là, vous connaissez Eric, peut-être ceux qui viennent au groupe de jeunes habituellement, je ne vais pas tous les citer, mais je suis vraiment content de pouvoir venir travailler avec l'église ici et puis de pouvoir passer un petit temps avec vous. Et on a décidé un petit peu, juste avant de faire cette réunion, de préparer une série pour ce début d'année. Et le thème de cette série va être « Je suis la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde » avec une grosse emphase sur qu'est-ce que ça veut dire d'une manière pratique, être la lumière du monde pour le chrétien. Et toutes les rencontres que nous aurons au groupe de jeunes ici à Saint-Maur, dans les semaines qui vont suivre, tous les 15 jours à peu près, le rythme, même s'il y aura des petites variations, Clément vous tiendra informé par un outil social qui s'appelle Facebook, que personne ne connaît. Dès qu'on aura une réunion, il vous préviendra, et on aura tous les 15 jours des thèmes précis sur comment être la lumière du monde, comment être la lumière du monde dans mon culte personnel, là où Dieu m'a placé dans ma famille, là où Dieu m'a placé à mon travail, comment l'être quand les épreuves sont autour de moi, comment être la lumière du monde quand je suis complètement asséché à l'intérieur, quand j'ai des ténèbres au fond de moi, comment être la lumière du monde jusqu'au bout et persévérer jusqu'à la fin. Voilà le genre de thème que nous aurons à aborder ensemble. Mais ce soir, c'est un petit peu l'introduction à cette série, et nous allons lire ensemble un texte qui se trouve dans Matthieu 5, Matthieu chapitre 5, et nous allons lire les versets 14 à 16. Matthieu 5, versets 14 à 16. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » On va encore prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant ta parole, celle par laquelle tu as créé le monde. Et nous savons que tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes, elle existe. Ta parole a la puissance et la valeur d'un fait. Quand tu dis les choses, Seigneur, elles sont vraies. Nous savons quelle est la vérité. Que tu es la vérité, tu ne parles pas pour rien dire, ce n'est pas du vent qui sort de ta bouche, c'est par ton esprit Seigneur, c'est une puissance. Et ce soir nous sommes confrontés en face de toi devant ta parole qui régénère, ne nous laisse pas partir de cette salle sans qu'un effet dans notre vie se soit produit d'une manière ou d'une autre, en étant conduit à la repentance ou à la nouvelle naissance Seigneur, que ta parole soit efficace ce soir pour nous parler, pour nous reprendre, pour nous exhorter, pour nous fortifier, pour nous rendre davantage semblables à Christ et pour nous bénir ensemble, parce que nous sommes ton Église et nous voulons te prier, Seigneur, pour que tu viennes nous visiter ce soir dans tous les aspects, dans tous nos besoins que tu connais bien mieux que nous-mêmes. Bénis ce groupe ici, Seigneur, bénis cette Église et que tu puisses nous garder tout un chacun individuellement. Amen. On va parler ce soir de la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et la grande question que j'aimerais soulever ce soir, finalement, c'est est-ce que vous êtes un chrétien ou est-ce que vous êtes une lumière? Est-ce que vous êtes un chrétien ou une lumière? Et c'est une question qu'on peut réellement se poser, parce que la définition du mot chrétien varie avec le temps et avec les âges. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, on a abordé un peu ce sujet-là, mais aujourd'hui, quand on parle de chrétien, est-ce que vraiment ça a le même impact que quand on parlait de chrétien dans l'Église primitive? Baladez-vous dans la rue et questionnez vos amis que vous rencontrez, posez-leur la question, monsieur, madame, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Si vous demandez à des musulmans, le musulman de la rue que vous allez rencontrer, que vous lui posez la question, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Peut-être certains d'entre vous vous dire, tous les occidentaux sont chrétiens. Et l'exemple que je donnais dimanche dernier, si François Hollande, pour certains musulmans, a voté la loi sur le mariage pour tous, ou l'a promulguée en la soumettant au Parlement, pour certains musulmans, c'est en tant que chrétien, en tant qu'occidental qu'il a fait ça. Et bien entendu, nous ne sommes pas du tout, nous ne proclamons pas qu'un chrétien est quelqu'un qui prend des décisions qui sont contraires à la parole de Dieu. Nous ne proclamons pas ces choses-là. La définition du mot chrétien a varié et on a souvent besoin sans cesse de revenir sur notre définition. On a besoin de comprendre ce qu'est un chrétien. Et la définition, l'image que nous donne notre texte ce soir, que nous allons prendre à l'étude, c'est que le chrétien est une lumière. Le chrétien est la lumière du monde. Et c'est exactement ce soir le sujet sur lequel je voudrais qu'on puisse se pencher ensemble. Et on va ensemble regarder trois caractéristiques de la lumière. Tout d'abord, on va voir que la lumière se voit. Ça paraît être un pléonasme, hein. C'est comme si on disait l'eau, ça mouille. Ben oui, super, hein. Mais la lumière se voit. Ensuite, nous verrons que la lumière brille. Et puis, enfin, nous verrons que la lumière éclaire. La lumière se voit, la lumière brille, la lumière éclaire. Puis nous réfléchirons ensemble à ce délicat sujet que peut être la contrefaçon de la lumière. On connaissait certainement les contrefaçons des belles chaussures importées depuis la Chine. On connaît peut-être également la contrefaçon des médicaments, on ne dira pas d'où ça vient. Mais est-il possible de contrefaire la lumière, dont il est question dans ce texte? Et puis enfin, nous parlerons ensemble, en deuxième commentaire, de la source de cette lumière. Et nous verrons ensemble comment réellement être la lumière. La première chose donc que j'aimerais soulever ce soir, c'est que nous sommes la lumière du monde et la lumière se voit. Et le verset nous dit « Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et franchement, à part si vous êtes aveugle, c'est impossible de ne pas voir la lumière. Sortez dans la rue, essayez de focaliser vos regards sur quelque chose, mais levez les yeux vers le ciel et dites-moi si vous pouvez manquer un seul instant le soleil en l'apercevant du regard. La lumière, c'est quelque chose qui saute aux yeux, c'est quelque chose qui attire notre regard. Et bien souvent, on se concentre sur des sources de lumière qui ne sont pas forcément les sources originales. On est un peu comme ce papillon qui va se balader la nuit et qui va aller s'écraser contre le lampadaire et on retrouvera mort et grillé le matin. J'ai libéré un magnifique papillon qui était bloqué dans ma cage d'escalier juste hier. J'ai eu toutes les peines du monde à lui faire comprendre que la vraie lumière, ce n'était pas le carreau qui était un peu marbré, mais c'était la fenêtre ouverte qui avait juste au-dessus. Et quand on regarde réellement vers le ciel, dites-moi si on peut manquer cette source de lumière. Et dès la création, Dieu place une différence qui est absolument claire entre la lumière et les ténèbres. Il les a séparés de sorte que la lumière, c'est la lumière, vous la reconnaissez tout de suite, et les ténèbres sont quelque chose qui sont... C'est radicalement différent de ce qu'on peut appeler la lumière. Donc les chrétiens, le chrétien est la lumière du monde, le chrétien est complètement séparé des ténèbres, si on veut prendre l'étymologie première du mot. Et donc, le chrétien est absolument appelé à être vu. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si notre texte nous dit que le chrétien est la lumière, c'est que le chrétien doit être vu en tant que chrétien. Je ne suis pas en train de vous dire que le chrétien doit venir comme un homme sandwich à la fac avec marqué dessus « Je suis un chrétien, aimez-moi ». Ce n'est pas exactement ça que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de vous dire qu'un chrétien doit nécessairement porter des t-shirts avec un poisson dessus ou avec un verset biblique. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez avoir un poisson derrière votre voiture si vous avez le permis. D'ailleurs, moi-même, j'ai enlevé le mien parce qu'après, j'avais honte de griller les feux rouges. C'est une blague, hein. Mais dites-vous une chose, c'est que je ne suis pas en train de vous parler de ça. Je suis en train, non pas de vous parler nécessairement de choses extérieures, mais de parures intérieures et cachées qui se manifestent par la disposition d'une vie impérissable dans un certain sens. Je connais une jeune fille qui fréquente le groupe de jeunes de mon église à Montreuil. Une jeune fille vraiment très introvertie. Un grand mal à s'exprimer. Dans la norme, vous ne pouvez même pas imaginer autrement. Vous la placez dans une salle, c'est très facile pour elle d'être la plus insignifiante des petites filles qui se trouvent dans la salle. Elle ne fait pas son âge du tout, elle fait plus jeune. Elle est toute gentille, mais en réalité, elle passe inaperçue. Cette jeune fille ne sait pas parler. Quand elle vient avec nous dans les semaines d'évangélisation, parce qu'elle a envie d'évangéliser, elle a toutes les peines du monde à avoir un contact dans les rues. Elle n'a pas la parole facile. Elle n'a rien nécessairement dans son apparence extérieure qui puisse l'aider dans cette tâche. Elle est toute intérieure. Mais cette jeune fille, cette année, a amené plusieurs personnes à Christ. Quand je lui ai demandé, mais comment tu fais pour attirer ces personnes? Elle m'a juste dit, en fait, c'est les gens qui viennent me voir. Ah bon? Pourquoi ils viennent te voir, ces gens-là? Ils viennent me voir, ils me disent, mais comment ça se fait que t'as pas de copains? Alors je leur explique. Et comment ça se fait que quand on fait des sorties dans tel ou tel endroit, tu viens pas avec nous? Parce que je leur explique. Et je leur explique qu'il y a des endroits où j'ai pas envie de me trouver parce que je veux cultiver ma relation avec Dieu. Je leur explique que je ne cherche pas à avoir un petit copain parce que je veux réserver ma vie et ma personne à mon mari. Et je leur explique que je fais ça parce que je veux plaire à Dieu. Et ces gens viennent la questionner. Pourquoi? Parce qu'elle a quelque chose de différent. Vous savez, il y a une grande erreur qu'on fait, et là je m'adresse à ceux qui sont liés à Christ et qui ont pris la décision de le servir, de le suivre, qui sont nés de nouveau, qui sont passés de la mort à la vie. Il y a une grande erreur qu'on fait bien souvent, on pense qu'on doit rendre le christianisme attractif. On pense qu'on doit, dans un certain sens, s'adapter à l'ère du temps et montrer au monde qu'on est... Ouais, c'est cool, quoi, d'être chrétien. Et c'est en voyant nous amuser que les gens vont voir que finalement, on n'est pas des gens austères du tout. C'est clair que quand on voit Clément d'Angouville avec sa coupe, on n'est pas austère du tout, quoi. Mais c'est en voyant nous amuser que les gens vont voir que finalement, on est des gens normaux, quoi. On est normaux, on est comme les autres. C'est cool, on peut venir avec nous. Et peut-être être chrétien, c'est bien. Mais le docteur Martin Lloyd-Jones a dit, l'Église a ceci de particulier, c'est qu'en étant absolument différente du monde, inévitablement, elle l'attire. Inévitablement, elle l'attire. Le chrétien est différent. Non pas différent par l'exclusion, il est différent pour le mieux. Le chrétien a quelque chose de différent du monde. Il n'a pas les mêmes aspirations que le monde. Il y a quelque chose qui doit se voir, quelque chose qui doit pas seulement être entendu ou vu extérieurement. Il y a une manière de vivre qui est différente pour le chrétien. Un chrétien dans une salle, quelqu'un qui vit sa relation avec Dieu, n'aura pas les mêmes aspirations, pas les mêmes buts, pas les mêmes pensées. Ses regards ne se tourneront pas vers les mêmes choses que les gens du monde. Et normalement, un chrétien devrait se reconnaître tout de suite. Normalement. La vraie lumière se voit. Il y a quelque chose de naturel dans la lumière. Le soleil brille, personne ne se pose la question. Il est là, on le voit, et on vit avec. Dans un certain sens, ainsi pourrait être le chrétien. Il y a quelque chose de naturel. C'est une lumière naturelle qui émane de lui. Il se voit. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. À combien plus forte raison le soleil de justice? Et toi-même, si tu es un enfant de Dieu, tu es placé au milieu du monde. Brilleras-tu? Est-ce que tu seras? La lumière se voit. Le chrétien doit se voir. Voilà la première caractéristique ce soir. La deuxième caractéristique, c'est que la lumière brille. Et effectivement, on pourrait aussi dire le feu, ça brûle, mais la lumière brille. Ça paraît être du bon sens, mais la lumière brille et on parle ici d'une question d'intensité. Vous avez ici dans cette salle toutes sortes de lampes, des néons qui sont là ce soir. Et quand vous avez un néon à changer, c'est très difficile de changer un néon aujourd'hui parce qu'il y a des nouvelles normes européennes et vous ne pouvez plus mettre n'importe quoi à la place des néons qui sautent. Mais quand vous devez changer une ampoule, quelle qu'elle soit, vous vous souciez de l'intensité de la pièce, de la taille de la pièce, et vous allez prendre une ampoule qui a une intensité spécifique pour cette taille de pièce. Et si vous voulez éclairer une grande pièce chez vous et que vous n'avez qu'une seule source de lumière, préparez-vous à prendre une ampoule d'une très grande intensité. Vous allez regarder à prendre peut-être l'intensité la plus forte qui existe. Et si vous voulez un aperçu du genre de surface que, en tant que chrétien, vous êtes appelé à éclairer, souvenez-vous d'une chose, vous êtes la lumière du monde. Le chrétien est appelé à éclairer le monde. Quelle ne doit pas être notre intensité, chers amis, si nous sommes des chrétiens? Rien à voir avec le pâle reflet que peut renvoyer votre lampe LED que vous accrochez à votre porte-clés. On est en train de parler de quelqu'un qui va éclairer le monde entier par sa présence. Lui, ses frères et sœurs, ses semblables, l'Église de Jésus-Christ. Mais toi, individuellement, si tu es un chrétien, tu es appelé à éclairer le monde. Il y a vraiment besoin d'avoir une intensité toute spéciale. Quel besoin de la grâce de Dieu nous avons. Quel besoin de la grâce de Dieu. Quelle nécessité pour briller de la sorte. Qui peut briller de cette façon-là? Personne par lui-même. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qu'on entend finalement par briller? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quand on dit le chrétien doit briller, regardez ce que dit notre texte. Que votre lumière luise, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce qu'on entend par bonnes œuvres? Alors on pourrait penser que ce serait des bonnes œuvres sociales. Le chrétien est appelé à faire du social. Ça sonne bien, n'est-ce pas? Sauf que ce n'est pas exactement le type de bonnes œuvres que le contexte immédiat du verset mentionne. Est-ce que quelqu'un connaît le passage, le nom du passage Matthieu 5 à 7 que nous sommes en train de lire et duquel on a tiré ces deux versets? Bien sûr, ceux qui sont étudiants à l'Institut biblique de Nogent n'ont pas le droit de répondre. Est-ce que quelqu'un connaît comment on appelle communément ce passage, Matthieu 5 à 7? Il y a qui, par exemple? Son frère à sa droite. On appelle ça le sermon. Le sermon sur la montagne. Bravo, grâce. La prochaine fois, je ramène un paquet de bonbons, je vais jeter des bonbons comme ça. Le sermon sur la montagne. Et si vous voulez un exemple de bonnes œuvres, de lumière qui brille, que vous voulez et que vous pouvez retrouver dans ce texte, commencez par penser à la repentance. Si vous voulez voir un fruit de la grâce tel qu'il est mentionné dans le sermon sur la montagne, et que vous constatez les exigences de Jésus-Christ lorsqu'il rappelle la loi ancienne telle qu'elle était au commencement dans ce passage, pensez à la repentance. Pensez à l'œuvre que produit en vous cette vie nouvelle, ce Saint-Esprit qui vous conduit invariablement à plier le genou devant la sainteté de Dieu, à reconnaître votre petitesse, voir que vous êtes complètement pécheur, séparé d'un Dieu comme ça. Vous vous imaginez ce Dieu-là qui a créé le monde, qui porte ses regards sur vous, et vous vous rendez compte de votre insignifiance, et vous voyez tout le mal qui est en vous, et vous voyez combien lui, il est parfait et saint en ayant créé ce monde. Peut-être vous vous dites, je ne suis pas une si mauvaise personne que ça. Et peut-être que vous fréquentez des milieux chrétiens depuis quelque temps, peut-être ce soir c'est la première fois, et vous vous dites, oh, je suis plutôt une bonne personne. Quel est mon besoin de me repentir, de penser à mon péché? Laissez-moi juste vous proposer un petit exercice. Imaginez que vous vous ouvriez le crâne, ne le faites pas. Hein. Imaginez que vous ouvriez le crâne et que vous placiez une puce dans votre cerveau, on referme, et pendant 2 ans, cette puce enregistre l'ensemble de vos pensées. Au bout de 2 ans, on arrive, on enlève cette puce et on fait une projection privée de tout ce que vous avez pensé pendant 2 ans devant toute votre famille. Vous êtes chaud? Qui est partant pour faire un tel exercice? Pour regarder celui des autres ou le tien? On peut commencer par toi si tu veux. Hein. On invite Eliane, on lui montre. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que personne n'aurait envie qu'on vienne sonder jusqu'au fond de nos pensées. Mais souvenez-vous une chose, devant le Dieu qui sonde nos cœurs et jusqu'au fond de nos reins, une pensée est l'équivalent d'une parole. Pensez votre prière, Dieu l'a entendu. Pensez votre péché, Dieu le verra. Si quelqu'un convoite une femme dans son cœur, nous dit Jésus, il a déjà commis un adultère dans son cœur. Est-ce que vous pensez que Dieu ne voit pas? Celui qui a créé toute chose, qui a tissé l'homme, qui l'a formé de la poussière de la terre, ne verrait-il pas de quoi nous sommes faits? Si vous voulez faire l'exercice, êtes-vous une bonne personne? Posez-vous juste simplement de quoi sont faites mes pensées. Regardez votre quotidien. Je vous propose un autre challenge. Vous savez, il y a récemment un jeune qui est venu dans mon bureau, il s'appelle Gabriel. Il est un chrétien, un enfant de Dieu aujourd'hui, qui marche avec Jésus-Christ depuis plusieurs mois. La première fois qu'il est arrivé dans mon bureau, ce jeune garçon m'a dit, écoutez, je viens vous voir, mais je ne crois pas du tout à la Bible, je pense que c'est un tissu de mensonges. Je pense que toutes ces choses sont fausses et de toute façon, je ne sais même pas pourquoi je suis là. C'est juste parce que j'ai une amie qui m'a pris la tête pour que je vienne vous parler à vous, monsieur le pasteur. Mais franchement, si je pouvais éviter, très bien, merci, bonjour, je suis enchanté de faire votre connaissance. On a commencé par parler un petit peu d'arguments apologétiques du style, mais non, la Bible, elle est viable. Je lui ai demandé de lire Ésaïe 53. Vous savez, Ésaïe 53, maltraité, il a été conduit comme une brebis menée à la boucherie, il l'a lu en entier, nous l'avons considéré comme frappé pour nous, meurtri, et il a payé pour nos péchés, c'est de nos iniquités dont il a été frappé, lui dit le texte. Il a lu ça, je lui ai demandé de qui parle ce texte. Il m'a dit de Jésus. Je lui ai dit, on va avoir un problème, ce texte il a été écrit 6 siècles avant Jésus. Oui, mais ça a été falsifié, mais on va avoir un deuxième problème, c'est qu'on a les manuscrits de Qumran aujourd'hui, et on sait qu'il avait au moins 200 ans avant Jésus ce texte. Dans les manuscrits de Qumran. Il a été vérifié tout ça. Il m'a rappelé et je lui ai demandé « Est-ce que tu es une bonne personne ?» Il m'a dit « Oui. » Alors je ne lui ai pas mis une exposition de ses différents péchés, je le connaissais à peine. Je lui ai juste dit « Je te propose un challenge. Rentre chez toi, plie le genou devant Dieu et prie. Dis-lui « Dieu, si tu existes, ce gars-là que j'ai vu à l'église Guillaume Bourin m'a dit que j'étais le pire des pécheurs. Je ne le crois pas un seul instant. Mais si tu existes, tu peux me le montrer. Montre-moi si je suis un pécheur ou pas. » Vous savez quoi ? Gabriel, il est rentré chez lui, et le lendemain, il a fait ça. Et on était chez moi, je me rappelle, j'habitais pas très loin d'ici. On avait une réunion un soir, et j'ai reçu un texto sur mon portable, et il m'a juste envoyé « J'ai prié comme tu m'as dit. J'en suis tout retourné. Purée, c'est vrai, je suis vraiment pourri. » Ce gars-là est revenu me voir à l'église, il m'a dit « Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» J'étais comme ça. Je lui ai exposé l'évangile, il a cru. Un mois après, il était sûr de sa vocation et il pense à se faire baptiser aujourd'hui. Il s'appelle Gabriel. Tu viens ce soir, tu te dis, qu'est-ce que je fais dans une église? C'est bien, c'est cool, il y a des jeunes, il y a des beaux gars, il y a des belles filles, il y a un groupe de jeunes, quoi, c'est super. Tu te dis ce soir, bon, on est là pour être ensemble, c'est pour s'amuser. Mais je n'ai pas besoin vraiment de Dieu, moi, je suis une bonne personne. Le plus important, c'est ma petite vie. Et puis c'est vrai, bon, on est tous pécheurs, mais on est tous pourris, c'est pas si grave. Prie et crie à Dieu. Demande-lui de te montrer l'étendue de ton péché et le besoin que tu as de sa grâce. Parce que tous les hommes sont pécheurs. Il n'y en a pas un qui ne pêche, dit Salomon. Et il le dit sur un ton affolé quand il dit ça. Il supplie Dieu qu'on puisse venir à sa maison demander pardon. Crie à Dieu et demande-lui de t'exposer la noirceur de ton cœur et de te montrer combien tu as besoin de cette grande grâce qui est promise en Jésus-Christ, la vraie lumière du monde. Donc un fruit, une bonne œuvre dans ce texte, c'est la repentance, mais aussi l'amour pour les autres, l'abnégation. Je ne suis pas en train de vous parler d'amour comme les anges de la télé-réalité, quoi. Je suis en train de vous parler d'amour qui se donne. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et nous, on est disciples, si vous suivez Jésus-Christ, de celui qui a donné sa vie pour ses ennemis. Car lorsque nous étions encore ennemis, nous dit la parole, Christ est mort pour nous. Vous êtes des chrétiens ? Vous êtes disciple de celui qui a donné sa vie pour ses ennemis et vous l'imitez. Voulez-vous donner votre vie pour votre ennemi, chers amis? Voilà une bonne œuvre dont notre texte parle. On parle d'obéissance au commandement de Dieu, en tout cas de désir d'obéissance au commandement de Dieu, d'envie de le suivre, de soif de le connaître mieux, de soif de lui ressembler, de reconnaissance envers Dieu, d'être plein de joie quand on chante des cantiques magnifiques comme on a chanté tout à l'heure, de dire « Mon Dieu, tu es grand, merci pour la croix, merci pour ta miséricorde qui me rappelle combien j'en avais besoin, merci pour ta bonté qui me pousse à la repentance, merci Seigneur, merci simplement parce que tu as fait toutes ces choses pour moi. » Voilà le genre de bonnes œuvres dont ce texte nous parle. Elle brille, cette lumière. Elle brille d'une manière éclatante. Ça se voit. Il y a quelque chose en termes d'intensité qui est différent de toutes sortes de lumières que l'on peut connaître. On parle de l'intensité du chrétien ici. Et c'est ce que vous êtes. Comment rirez-vous ? Une troisième caractéristique, c'est que la lumière éclaire. La lumière éclaire. Personne ne met une lampe sous le boisseau. Personne ne la met sous la table. Si vous avez un lit et que vous avez un meuble de lit, si vous mettez la lampe sous le meuble de lit, non seulement vous n'arriverez pas à lire, mais laissez-moi vous dire que vous êtes stupide si vous avez fait ça. Personne ne met une lampe sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le but d'une bougie, généralement aujourd'hui on sort les bougies quand les plombs ont sauté et qu'on ne voit plus rien dans la pièce. Donc vous sortez votre petite bougie qui va bien, vous l'allumez et ensuite vous voyez, vous êtes dans une pièce dans laquelle vous avez placé un objet qui consiste à éclairer ce qu'il y a autour de vous. Et la lampe sert à
éclairé et que nous puissions distinguer les différentes choses qui se trouvent dans la pièce où nous sommes. Autrement,
nous n'en trouverions pas la sortie. Et si vous êtes la lumière du monde, vous êtes appelé à éclairer et être cette lumière pour ceux qui vous entourent. On est en train de parler d'une bougie qui va donner la direction, qui va montrer où se trouve l'entrée de la pièce, la sortie de la pièce, qui va indiquer un chemin, montrer le but à atteindre éventuellement, mettre en évidence les obstacles. Vous connaissez ce verset, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je ne sais pas si vous avez fait un peu d'excursion en montagne la nuit, moi jamais, mais j'ai vu des vidéos à la télé. Vous savez, c'est comme, est-ce que vous avez déjà chassé? Moi jamais, mais j'ai regardé chasse et pêche. Vous savez, si vous voulez faire de la spéléo la nuit, aller visiter une grotte ou escalader une montagne la nuit, ou courir la nuit, ou faire un trek, je ne sais pas, moi, vous avez besoin de lumière, vous allez mettre votre lampe sur le front. Mais le texte nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Qu'est-ce qui veut éclairer les rochers et les cailloux qui pourraient bien vous faire trébucher? Oh, serrez la parole dans votre cœur si vous ne voulez pas pécher contre Dieu. Nous sommes appelés à montrer au monde les obstacles et les rochers qui se trouvent sur sa route. Et comme je disais dans une citation d'un auteur bien connu hier, ne laissons personne aller en enfer sans avoir les deux bras accrochés à ses genoux. Ne laissons personne partir de ce monde dans la fournaise éternelle sans qu'on ait prié pour lui et sans qu'on l'ait averti. On ne peut pas être autre chose que la lumière. Vous avez un doute là-dessus? Pourquoi avez-vous reçu le Saint-Esprit si vous l'avez reçu ce soir? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous irez jouer aux boules? Non. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous irez tous faire un bowling? Non. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et tous les vendredis soirs, vous vous rassemblerez ici à Saint-Maur, et vous chanterez des cantiques avec Clément Longuevue, et vous écouterez Guillaume Bourin faire des prédications? Non. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, dit Christ. Le Saint-Esprit est une puissance pour le témoignage. Le chrétien qui a reçu le Saint-Esprit éclaire autour de lui. Il montre le chemin. Il désigne le but à un monde aveuglé et engourdi qui refuse de reconnaître Dieu en étant Dieu. Voilà la lumière du monde, ce que cela signifie. Trois choses. On a dit que le chrétien est une lumière qui se voit. On le reconnaît tout de suite. Le chrétien est une lumière qui brille. Il y a une question d'intensité ici. Quelque chose qui est appelé à briller toujours plus. C'est le monde qu'on doit éclairer. Est-ce que vous vous rendez compte du challenge? Le chrétien est appelé à éclairer, à être un fidèle marqueur et un fidèle témoin sur la route qui sauve et qui mène au paradis. Et maintenant, j'aimerais aborder un point et un commentaire qui me paraît vraiment essentiel ce soir. Et j'aimerais bien que vous soyez vraiment au clair sur cette notion de fausse et de vraie conversion que Clément a mis en avant quand il a fait l'accroche de ce groupe de jeunes ce soir. Est-ce que c'est possible d'être une fausse lumière? Est-ce que c'est possible d'être une contrefaçon de la lumière au point de s'illusionner soi-même et d'illusionner les autres? Il est question dans la parabole du semeur d'avoir la foi pour un peu de temps puis de voir cette foi disparaître par les soucis et le manque de priorité de ce monde, mais est-ce que c'est possible réellement de faire illusion à ce point-là? Ma femme a une lampe qu'elle a achetée, qu'on lui a achetée, on appelle ça de la luminothérapie, c'est extraordinaire. Quand vous êtes un peu déprimé, vous allumez votre petite lampe qui va bien, et cette lampe reproduit la lumière du jour avec une douce musique d'ambiance, et j'ai remarqué que ma femme, chaque fois qu'elle le faisait, elle était de super bonne humeur. J'exagère, ça ne marche pas aussi bien que ça. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette lampe, et ça m'a frappé, reproduit exactement la lumière du jour. Quand on a découvert ça, on était vraiment frappé. Et ma femme a une passion, ça s'appelle le scrapbooking. Qui connaît le scrapbooking? Que des meufs. Ah non, il y a Clément. Ah non, il y a Francis aussi.
J'ai une sœur.
Le scrapbooking, c'est un système de découpage, collage, et de faire, enfin, vous faites des espèces de petits livrets, souvenirs, et c'est vraiment très joli. Mais quand ma femme fait ça, elle avait besoin d'une source de lumière, de précision, parce que parfois elle va chercher dans l'infiniment petit, puis elle customise tout ça avec des paillettes. Moi, je suis assez impressionné de tous les petits trucs qui traînent partout dans le bureau, mais il lui fallait une lumière spécifique. Et quand elle a découvert cette histoire de reproduction de la lumière du jour, elle s'est acheté une lampe qui était loupe en même temps, et entre la lampe qu'elle avait avant, une lampe de dessinateur, et cette lampe-là, qui avait la même intensité que la lumière du jour, il n'y avait pas photo. Vous voyez tout de suite la différence. Et on pouvait aller très largement dans le détail. Et en pensant à cette lumière, j'ai pensé à ce système qui nous permet d'attraper les insectes en plein été. Vous avez déjà remarqué ce système de lampe qui laisse les insectes s'approcher et tout d'un coup vous entendez bzzz, ils se sont fait griller. C'est un piège. Vous savez que les insectes aiment bien voler comme les papillons de nuit qui viennent voler autour de la lumière. Et parfois vous avez des appareils que vous posez et là vous avez la bête qui arrive, bzzz, bzzz, elle se met devant et elle se fait cramer par le truc. C'est une fausse lumière. C'est une lumière artificielle. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que de la même manière que vous avez des contrefaçons de lumière, il est possible d'avoir des contrefaçons de chrétiens. Le chrétien est la lumière du monde. Le chrétien est la lumière du monde, mais il est possible que le chrétien soit en fait une apparence de chrétien. On a fait une campagne, je crois que c'est comme ça qu'on s'est connu, cette église et moi, en 2010 à Paris. Et dans cette campagne, il y avait une jeune fille qui était là. Elle m'a dit je devais me marier aujourd'hui. Dramatique quand on vous dit ça. Je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit j'étais avec un garçon. Ça se passait très bien. Tout le monde me trouvait vraiment engagé, fidèle, gentil. Et il y a un mois de ça, il m'a dit, tu sais, ça fait un an que vous tous de vous et que je m'éclate à vous. Je ne crois pas un seul instant en votre Dieu. J'ai fait juste semblant pendant un an. Et franchement, je ne l'aime pas. Et je m'en vais. Comme ça. Et le gars a disparu. Et il n'a plus jamais revu. Est-ce que c'est possible de pouvoir faire illusion à ce point-là? Est-ce que c'est possible d'être à un point où on ne reconnaît pas un vrai chrétien d'un fou? Ne croyez pas que ça n'arrivait pas au premier chrétien. L'apôtre Jean dit, ces gens-là sont sortis du milieu de nous, mais ce n'étaient pas des nôtres, parce que s'ils étaient des nôtres, ils ne seraient pas sortis du milieu de nous. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui que ce soit, écrit pour prévenir de toute forme d'apostasie en leur disant, mais si vous abandonnez votre assemblée, mais si vous êtes abandonné le rassemblement de nous-mêmes, si vous retournez au sacrifice, mais qu'est-ce que vous croyez qui va vous arriver si vous abandonnez la foi? Oh, je crois à l'assurance du salut, je vous rassure. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il est possible que certains apostasient. Autrement, où serait cette foi passagère dont il est question dans Marc? Ils n'ont pas de racines. Ils ont la foi pour un peu de temps. Ils disparaissent. Je ne dis pas ces choses-là pour vous alarmer outre mesure, mais pour vous avertir à ce qui est bien séant et juste. Je m'explique. Première chose qu'une contrefaçon de lumière a, c'est qu'ils n'ont pas été allumés par le divin maître. Une bonne bougie chrétienne, c'est Christ qui arrive avec son briquet, si je peux me permettre l'illustration, et il l'a allumé. Mais une bougie qu'il n'a pas allumée n'est pas une bougie à lui. C'est une contrefaçon de la lumière. Et vous la reconnaissez parce qu'elle dégage généralement une bien faible lumière, très basée sur l'apparence et qui ne dure pas dans le temps. Sa batterie est sur le point de lâcher. C'est comme la vieille lampe de poche que tu as gardée, tu sais, dans ton placard électrique, là. Et qu'un jour, les plombs sautent. Oh, ça fait 3 ans qu'ils n'avaient pas sauté. Tu allumes la lampe et là, tu te dis, wow, c'est quoi ce truc? Tu vois rien du tout, quoi. Et là, tu vas chercher une bougie. Ça t'est jamais arrivé? Ce genre de lampe, avec la pile qui est en train de te lâcher, 3 minutes à peine, et la lampe s'est éteinte. Oh, ils ont la foi pour un peu de temps. Tout n'est qu'artifice, tout n'est qu'apparence. Les choses ne sont pas profondes. Essaye de discuter spirituel avec eux et tu verras bien vite les limites. Je ne dis pas ça pour t'alarmer. Je suis en train de te dire qu'un vrai chrétien véritable va persévérer même dans les pires circonstances, va porter beaucoup de fruits et va nécessairement avoir envie de connaître mieux son Dieu, avoir soif de lui. Quelque chose de nouveau en lui, ses objectifs, son but, son envie de le suivre. Et si vous voulez faire une comparaison des différents types de chrétiens qu'on peut trouver, si je puis me permettre avec le mot chrétien, relisez la parabole du semeur et regardez la bonne terre, regardez la mauvaise terre. Regardez la bonne graine et la mauvaise graine, regardez celle qui croît et qui porte du fruit au centuple. Oh, ce soir, j'aimerais te dire, peut-être tu es en train de te reconnaître dans cette description-là. Il n'y a que deux options. Soit tu n'as jamais fait cette expérience de nouvelle naissance. Et dans ce cas, laisse-moi te dire que s'il y a une expérience sur cette terre qui doit être faite, c'est celle-là. Et tu devrais bien crier à Dieu afin de le rencontrer personnellement, parce que c'est son initiative, sa prérogative. Soit tout simplement tu as mis en oubli un certain aspect de ta vie chrétienne, peut-être tu es tombé dans un péché qui t'a endurci à un tel point que tu te rends compte que dans ta vie de tous les jours, Dieu et toi, il y a une distance qui s'est créée et qu'il n'y a plus grand chose qui te différencie du reste du monde. Mais laisse-moi te dire un truc, qui que tu sois et où tu sois, dans les deux cas, ce soir, Dieu a un appel spécifique pour toi. Et cet appel spécifique, c'est viens. Rencontre-moi. Parle-moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit l'Éternel. Et qui que tu sois, quel que soit ton arrière-plan, quelle qu'ait été ta vie chrétienne passée, ou quoi qu'ait été ton expérience, quelle que soit ta relation avec Dieu, il y a une porte ouverte que personne ne peut fermer. La grande question, c'est passeras-tu ? Il est possible d'être une contrefaçon de la lumière. Je prie ce soir que ça ne soit pas ton cas. La dernière remarque que j'aimerais faire concerne la source de la lumière. Jésus-Christ dit « Je suis la lumière du monde » et par conséquent, il nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». J'aimerais vous dire que tout commence on allume la bougie. Alors vous pouvez avoir toute une batterie de belles bougies, des bougies avec des bonnes odeurs aujourd'hui. Mais si vous ne l'allumez pas, elle ne servira pas à grand chose. Il y a une expérience que je mentionnais juste avant, qui s'appelle la nouvelle naissance, qui ne peut s'acquérir que par une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et Christ a donné sa vie pour que cette bougie brûle et soit allumée. Et 2000 ans, il est venu mourir sur la croix, payer le prix pour mes péchés, pour les péchés de ceux qui se tournent vers lui. Et si ce soir, tu t'es tourné vers Christ, si tu l'as accepté comme ton Seigneur, Sauveur personnel, si tu as l'assurance que quand il a été cloué sur la croix, c'est pour tes péchés qu'il a été cloué, que quand il a été frappé dans son côté, c'est pour tes meurtrissures et tes maladies personnelles, tes maladies spirituelles qu'il a été frappé, si tu penses réellement qu'il a été élevé pour toi, que ce qui lui a attiré ce supplice, c'est pas quelques fautes qu'il ait fait lui-même, mais ton injustice. Si c'est pour toi qu'il a subi ces choses-là, si tu crois cela, si tu crois qu'il a ressuscité des morts, si tu crois qu'il a vaincu la mort, si tu crois que Christ sur la croix n'est pas resté sur la croix et n'est pas resté au tombeau, si tu acceptes ces choses-là, pas seulement intellectuellement, mais si tu y crois fermement et que tu confies ta vie dans ce Sauveur-là, Dieu va transformer ta vie. La réalité, c'est que cette expérience, personnellement, je l'ai faite il y a une dizaine d'années, j'étais en train de partager tout à l'heure, c'était il y a 10 ans pour moi à peu près. Et ça a complètement, radicalement changé ma vie. Ça m'a détourné de la drogue, ça m'a, disons, remis sur le chemin du travail, c'était très compliqué pour moi. Mais surtout, ça m'a donné une assurance éternelle. Parce qu'il a commencé en moi une œuvre, un peu comme quand tu sèmes une graine, t'attends de voir la plante pousser. Il a commencé une œuvre en moi qui se poursuit encore aujourd'hui. Et dans les découragements, et quand je vois mon propre cœur encore mauvais, mes réactions parfois qui sont complètement le contraire de ce que j'aimerais qu'elles soient, il y a une chose qui m'encourage. Dieu est à l'œuvre. Ce que je suis aujourd'hui ne sera pas ce qu'il fera demain avec moi. Est-ce que tu as la vie de Christ en toi ? Est-ce que tu as cette évidence qui prouve que tu as la vie de Christ, à savoir que tu as accepté Christ mort sur la croix pour toi et ressuscité le troisième jour ? Est-ce qu'il a payé pour toi ? Ou est-ce que tu es un étranger pour lui ? Quelle est ta situation avec lui ce soir ? Est-ce que ta bougie est allumée ? Ou est-ce que tu as juste mis une batterie d'iPhone trafiquée pour rendre la lumière d'un Samsung ? Sérieusement, où en es-tu avec cette expérience ? Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien, mes amis ? Est-ce que vous croyez que cette lumière vienne de nous-mêmes ? Est-ce que vous croyez que quelques puissances viennent de nous ? rien du tout. Nous brillons par réverbération. Il est la lumière du monde et nous le sommes parce que nous sommes son miroir. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, un jour nous porterons l'image du céleste et nous serons complètement semblables à lui. D'ici là, nous sommes comme un petit miroir imparfait. Un miroir déformant quand même. Hein. Vous savez, quand vous allez dans la galerie des glaces, généralement vous ne vous ressemblez pas à ce que vous êtes réellement. Et dans un sens, on le renvoie imparfaitement. On est toujours dans un corps de mort, on est toujours pécheur. Mais on cherche à briller comme il a brillé. On cherche à marcher comme il a marché. On cherche à lui plaire et à ainsi montrer Christ aux hommes, à être l'odeur de Christ. Briller par réverbération. La source de votre vie chrétienne est Christ. Et dans la suite de ce que nous ferons dans les prochaines séries et les prochaines discussions qu'on aura d'une manière un peu plus pratique sur plusieurs aspects pratiques de votre vie chrétienne, nous reviendrons toujours à cela. Le divin modèle, la divine lumière, celle que nous cherchons à refléter, est la personne de Christ. J'aimerais prier maintenant, et ensuite je pense qu'on aura un temps de questions, c'est ça Clément ? On prend la chambre et on prend un temps de questions ? Ok. On va prier. Seigneur, merci parce que tu es cette divine lumière, parce que tu es ce grand Dieu qui est venu dans le monde, tu t'es incarné toi-même, tu es venu en la personne de Christ pour donner ta vie pour nous. Merci parce qu'il n'y a aucun péché qui soit tellement grand que tu ne puisses pas le pardonner, Seigneur. Tu as payé à la croix pour un plein pardon pour le pire des pécheurs, pour la pire des personnes, le pire des meurtriers, Seigneur. Et tu l'as fait parce que tu aimes. Et merci, Seigneur, parce que ceux qui se confient en toi peuvent avoir l'assurance d'avoir la vie éternelle, avoir l'assurance que tu as donné ta vie spécialement pour eux, à leur place, que la colère de Dieu qui était juste est tombée sur toi, Seigneur. Et je te prie pour que ce soir, personne ne puisse partir de cette salle sans avoir renouvelé son engagement avec toi, sans avoir fait l'inventaire de sa vie, voir s'il brille comme tu veux qu'il brille, Seigneur, sans t'avoir remis en entier son existence éternelle. Père Céleste, je te prie pour que tu puisses nous bénir ensemble et vraiment nous aider à refléter ta personne en Christ telle que tu veux que nous la reflétions. Je te prie de nous rendre toujours plus réverbérants, Seigneur, qu'on puisse témoigner de cette grande lumière qui est venue s'adresser à nous. Nous savons que la lumière brille dans les ténèbres et que les ténèbres ne la reçoivent pas. Mais nous te prions pour que quelques-uns se tournent vers toi, Seigneur. Et nous comptons sur ta puissance pour ce faire. Nous pensons en particulier au groupe de jeunes à venir. On pense à ce groupe de jeunes qui aura lieu le 20 ici. Et on te prie, Seigneur, vraiment pour que tu puisses nous bénir ensemble et nous donner ta paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je vais lire un verset. En fait, je vais relire le passage que Guillaume vient de... sur lequel il vient de prêcher. Donc il commence... Enfin, je commence à verset 13. « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Verset 14, Matthieu 5, verset 14. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Amen. Qui sont mauvais. Je demandais à Francis.